Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'affaire du jour nous emmène dans l'état de Washington, au nord-est des États-Unis. Au sud de Seattle, près de Tacoma, se trouve la ville de Lakewood. Connue pour ses belles vues, ses quartiers familiaux et ses lacs, Lakewood, enfin lake ça veut dire lac, Lakewood offre à ses 63 600 habitants une atmosphère tranquille de banlieue. Ancienne station balnéaire de l'élite de Seattle, la ville a aujourd'hui une vie plus humble et moins saisonnière. La population y est très diversifiée. Elle abrite notamment un immense quartier international où près de la moitié des habitants ne sont pas anglophones. On y trouve des personnes d'origine coréenne, chinoise, vietnamienne, latino et bien sûr tous les restaurants qui vont avec. Petit à petit, ma chaîne se transforme en guide touristique de la bouffe. À Lakewood se trouvent aussi deux bases militaires qui y sont installées depuis le début du siècle. La base commune Lewis-McChord et la base de camp Murray. Les deux installations jouent encore de nos jours un rôle de premier plan dans la région, quartier général de l'armée de Washington, de la garde d'État, de la garde nationale aérienne et du département militaire de l'État. La ville propose donc des logements de fonction aux militaires qui y travaillent et à leurs proches. Skylar Nemetz est un jeune militaire, lui et sa femme sont mariés depuis un an et demi, il réside à Lakewood, près de la base Lewis-McChord où travaille Skylar. Le 16 octobre 2014, il retrouve sa femme, Danielle, après 3 semaines de séparation, 3 semaines pendant lesquelles Skylar était en formation militaire. Danielle Tara Ripeon naît le 11 janvier 1995, elle naît 7 semaines avant son terme. Les médecins ne croient pas qu'elle va survivre, mais la toute petite Danielle se bat comme une championne et se remet vite de son arrivée prématurée. Elle grandit avec son frère et ses deux sœurs. Malheureusement, à l'âge de 2 ans, elle perd sa mère, Elizabeth Ripeon Cole, d'un cancer. C'est alors leur grand-mère maternelle, Scarlett, qui prend en charge les enfants. Ils vivent ensemble modestement à McKinleyville, en Californie. Au décès de Scarlett, le beau-père des enfants, Michael Boulton, adopte Danielle, qui a alors 14 ans, et ses frères et sœurs. Il les élève comme ses propres enfants. Danielle va à l'école de McKinleyville, elle est bonne élève et elle fait partie de l'équipe des cheerleaders. Elle fait les acrobaties dans les airs. Elle est toute petite, toute menue, donc ce rôle dans l'équipe lui va comme un gant. Danielle est non seulement une jeune femme d'une grande beauté, mais elle est aussi douce, avenante, bienveillante et très amicale. Mais elle a un côté mélancolique. Quand elle rencontre sa meilleure amie, Michaela Yingling, les deux jeunes filles nouent très vite un lien spécial. Elles ont toutes les deux perdu leur mère à peu près au même âge. Danielle est très appréciée de ses camarades et de la coach de l'équipe des cheerleaders. C'est une lycéenne comme les autres qui adore ses amis, sa famille, le maquillage et le sport. Mais dans le fond, elle se sent seule, elle cherche des repères, du réconfort, de l'amour, et elle le cherche dans le regard des garçons de son âge. Elle a besoin de se sentir aimée, d'être entourée et d'avoir l'attention de ses petits amis. Elle s'attache aussi très vite à leur famille. Elle prend chaque relation comme s'il s'agissait de l'homme de sa vie. Elle est en grande recherche de stabilité, et cette stabilité, elle va la trouver dans les bras de Skylar. Danielle a 17 ans quand elle fait sa rencontre. Les sources divergent quant aux détails de leur rencontre. Alors d'après certains articles, ça se passe pendant un match de foot, et dans d'autres sources, ils auraient échangé via Facebook. Mais une chose est sûre, c'est le coup de foudre, l'alchimie est réciproque. Skylar vient d'être diplômé d'un autre lycée, il s'est engagé dans l'armée, il doit commencer son entraînement en Géorgie d'ici quelques mois. Danielle dit au bout de quelques semaines à peine à ses amis qu'elle compte épouser Skylar. Et Skylar, de son côté, est tout aussi amoureux. Sa mère, Danette Heller, en est témoin. Au bout d'un mois, Skylar lui demande si Danielle peut emménager avec eux. Danette, qui considère déjà Danielle comme sa fille, accepte. Danette et Danielle cohabitent parfaitement et même en l'absence de Skylar pendant sa formation en Géorgie. Pendant les vacances de Noël, Skylar rentre chez sa mère, il emmène Danielle en haut de la montagne Neeland et là, sur le toit du monde, il se met à genoux, il lui tend une bague et il la demande en mariage. Alors Neeland c'est cute mais en anglais ça veut dire le pays du genou, donc c'est très bien trouvé comme endroit. Danielle est au comble du bonheur, elle accepte cette demande en mariage, c'est son rêve qui se réalise. Elle épouse l'homme qu'elle aime et ensemble ils vont fonder une famille. Seulement 5 mois après leur rencontre, Danielle et Skylar se marient le 7 mars 2013, le jour de la remise du diplôme militaire de Skylar en Géorgie. Les jeunes mariés décident de ne pas attendre une seconde pour démarrer leur nouvelle vie. Danielle abandonne le lycée, ils adoptent 2 chiens et ensemble, ils emménagent dans un logement militaire à Lakewood, juste à côté de la base où Skylar est stationnée. Danielle est heureuse, elle meuble et elle décore leur maison pour créer un foyer chaleureux et accueillant pour elle et son mari. Le couple partage de nombreux intérêts communs, les chiens, les promenades, la nature, le foot, le sport et aussi les armes à feu. Ensemble, ils vont au stand de tir pour s'entraîner. Daniel adore ses moments passés avec son mari. Enfin, de toute façon, elle aime tout ce qu'ils font ensemble quand il n'est pas en mission. Collectionneur et bricoleur, Skylar va construire et offrir à Daniel, pour ses 19 ans, un AR-15 personnalisé de sa couleur préférée, le bleu. Les armes, Skylar, il adore ça, il a grandi entouré d'armes, il y en a toujours eu chez lui, il tire au fusil depuis qu'il est tout petit et il a une collection de plus d'une douzaine d'armes à feu qu'il conserve dans un coffre-fort dans leur appartement. Sous les encouragements de Skylar, Daniel se réinscrit dans une école locale et obtient son diplôme de fin de lycée. Elle trouve ensuite un boulot dans une entreprise qui fabrique des plans de travail en granit. Elle apprécie son travail et ses collègues et ça l'occupe quand Skylar est en mission. Mais elle rêve de pouvoir économiser assez d'argent pour pouvoir un jour ouvrir son propre salon de manucure. Et en attendant, elle expérimente des techniques de maquillage et elle poste des tutos make-up sur YouTube. Son occupation première, cependant, c'est être aux petits soins pour son mari. Elle veut être la femme parfaite, la future mère parfaite. De l'extérieur, Daniel et Skylar semblent mener une vie paisible, stable et traditionnelle. Mais sous la surface du couple idéal, on gratte un peu et on commence à voir certains signes inquiétants qui laissent penser que quelque chose cloche dans leur mariage. Des amis de Daniel rapportent qu'elle semble de plus en plus anxieuse. Elle raconte qu'elle est très stressée à l'idée de devoir tenir une maison impeccable. Elle ressent beaucoup de pression à devoir faire le ménage constamment, préparer les repas de Skylar quand il rentre du travail. Les amis de Daniel racontent aussi que des bleus commencent à apparaître sur les bras de la jeune femme. Des bleus en forme de doigts, comme à cause d'une main qu'il aurait agrippée bien trop fort. Daniel tente de les cacher avec des manches longues, et quand ses amis les voient quand même et l'interrogent, « C'est quoi ce que t'as sur le bras ?» Elle répond qu'elle est juste maladroite, qu'elle s'est cognée sur le placard de la salle de bain, qu'elle s'est fermé le frigo sur le bras sans faire exprès, etc. On a aussi des voisins du couple qui remarquent que des disputes bruyantes, violentes, éclatent dans le foyer du couple. Des disputes qui tournent quasi toujours autour de la même chose. Skylar est jaloux maladif, et il accuse constamment Daniel de le tromper. Et la pauvre, elle est folle amoureuse, elle est plutôt isolée en plus, elle fait tous les efforts du monde pour être la femme parfaite dont rêve son mari, et lui, il l'accuse de tromperie. Les signes de la violence et du contrôle qu'exerce Skylar sur Daniel se font de plus en plus nombreux. Skylar rentre du boulot, il boit, et une fois qu'il est ivre, il se lance dans des crises de colère, il engueule Daniel pour un oui, pour un non, et même pour un rien. Le 27 septembre 2014, Skylar et ses compagnons d'armes de l'infanterie sont envoyés à l'est de l'État pour une mission d'entraînement qui doit durer 3 semaines. Pendant ce temps-là, Daniel reste seul à la maison. Elle est seule et un peu isolée, mais elle trouve le moyen de s'occuper. Elle travaille, elle s'occupe de la maison, encore et toujours. Elle promène ses deux chiens adorés, elle voit ses collègues et ses amis. La routine assez normale d'une jeune femme entre ses amis, sa maison, ses toutous et son boulot. Le 16 octobre 2014, après 19 jours séparés, Daniel attend Skylar devant la base militaire pour le ramener à leur appartement. Pour fêter leur retrouvaille, ils ont prévu de commander des pizzas pour le dîner. En arrivant à la maison, Daniel montre très fièrement à Skylar comment elle a bien préparé son retour. L'appartement est impeccable, elle a acheté des bougies pour le décorer, elle a lavé les chiens, tout pour rendre son mari heureux. À 16h, Daniel FaceTime sa meilleure amie, Michaela. Elle est installée dans la chambre d'amis, assise à son bureau, face à l'ordinateur. Skylar rentre dans la pièce, il se pose sur le canapé, en face du bureau. Daniel lui montre le téléphone, l'air de dire « je suis en ligne ». Skylar sourit, fait un signe de la main, les deux amis terminent leur conversation vers 17h. Daniel dit à Michaela « je t'aime, on se rappelle très vite, bisous ». Vers 17h30, ce même jour, un premier appel arrive au standard du 911, puis un deuxième. Ce sont les voisins de Daniel et Skylar, ils ont entendu un coup de feu. L'un des voisins, très inquiet, frappe à la porte du couple pour vérifier ce qu'il se passe. Il tombe sur Skylar qui semble paniquer. Il dit que Daniel s'est accidentellement tiré une balle en nettoyant son fusil et il interdit au voisin de rentrer dans son appartement. La police arrive quelques minutes plus tard. Daniel est affalé sur son bureau. Elle a reçu une balle dans la tête. Mais très vite, cette version des faits donnée par Skylar, mais on s'aperçoit qu'elle ne tient pas la route. Il n'y a aucun doute, c'est lui qui a tiré sur Daniel. Elle est touchée à l'arrière de la tête. Mais est-ce qu'il s'agit d'un accident ou d'un geste volontaire ? Skylar est placé en état d'arrestation à 18h07. Il est filmé dans la voiture en chemin vers le commissariat de l'Écoude. Il semble être en état de choc.
« just kill me. My wife. My love.
Une fois en garde à vue, Skylar est interrogé pendant plus de 5 heures. Il revient sur sa première version. Danielle ne se tire pas elle-même une balle dans la tête. C'est lui, c'est Skylar, qui a le AR-15 en main. Et il va raconter aux enquêteurs comment s'est déroulée la journée. Un peu plus tôt, il envoie un SMS à Danielle, lui demandant d'aller acheter pour lui 2 bouteilles de whisky, une Sailor Jerry's et une Fireball. Détail important, Skyler a moins de 21 ans, donc il ne peut pas se procurer seul de l'alcool, et on reviendra sur ces 2 bouteilles un peu plus tard. Skyler continue son récit, j'ai bu un shot de Sailor Jerry's et un verre de Fireball avec du Red Bull. Je ne pense pas que j'étais complètement ivre, mais j'étais, je dirais, un peu bourré, et surtout fatigué, mais aussi de bonne humeur. Fin de citation. Après avoir bu son verre pour décompresser, Skylar veut ranger l'arme dans son coffre-fort. Excellente idée de manipuler une arme à feu quand on a bu, mais bref. Il s'agit de l'arme offerte par Skylar à Danielle pour qu'elle puisse se protéger en son absence. Elle est rangée dans le placard de leur chambre, accessible rapidement en cas de besoin. Mais une règle de base, c'est que les armes doivent être déchargées et rangées dans le coffre-fort quand elles ne sont pas utilisées. Skylar a hérité de cette règle de ses parents. Il prend donc l'arme et s'installe sur le canapé pour la préparer à être rangée. Danielle, elle est sur l'ordinateur, assise à son bureau en face du canapé, et elle fait dos à Skylar. Skylar raconte qu'il retire le magazine dans lequel se trouvent toutes les munitions. L'arme est censée être déchargée, mais malencontreusement, une balle reste dans la chambre de l'arme. Enfin, je sais pas si on dit chambre, mais t'as compris. Un coup de feu part accidentellement. La balle traverse la pièce, puis elle traverse la tête de Danielle et se loge dans l'ordinateur. Danielle meurt sur le coup. Mais plus il parle, plus Skylar semble coupable aux yeux des enquêteurs. Sa version des faits change, notamment sur la façon dont il tient l'arme quand le coup part. Les enquêteurs lui demandent d'expliquer les détails, comment un tel accident a pu arriver, comment un expert en armes à feu peut faire une telle erreur de débutant, pourquoi Skylar n'appelle-t-il pas le 911, c'est les voisins qui le font, pourquoi on ne trouve pas une goutte de sang de Danielle sur Skylar, sous-entendant qu'il n'essaie pas de lui porter secours, pourquoi vider les bouteilles d'alcool dans les toilettes et les jeter ensuite par le balcon, pourquoi remettre le AR-15 dans le placard et pousser les munitions sous le lit, trop de choses qui ne vont pas. À la fin de cet interrogatoire, Skylar ne convainc pas les enquêteurs. Il est amené à la prison du comté de Pierce. Sa caution s'élève à 1 million de dollars. Sa mère, Danette, va tout faire pour rassembler la somme et permettre à son fils de sortir de prison dans l'attente de son procès, et il sera assigné à résidence sous contrôle judiciaire. Pendant ce temps, l'enquête continue. Les détectives passent la vie et les relations du couple au crible. Ils savent qu'ils tiennent leur coupable, ils veulent un mobile. Sans mobile, on aurait un homicide involontaire et les enquêteurs sont convaincus que le tir est délibéré. Les amis de Danielle sont interrogés et ils se disent témoins de comportements contrôlants de la part de Skylar. Il interdit par exemple à sa femme d'aller à la baby shower de Michaela. Il ne veut pas qu'elle trouve un emploi, il préfère la savoir à la maison, à l'attendre bien sagement. Michaela explique par exemple que quand Skylar dépose Danielle devant chez elle, il va faire autre chose, le temps que les deux amis se voient, il ne cherche pas à connaître la meilleure amie de sa femme, et elle dit même qu'il l'ignore complètement. Un autre ami de Danielle est témoin du même comportement. Skylar accuse Danielle de le tromper avec tous les hommes avec lesquels elle interagit, ses amis, ses collègues, même des voisins. Il s'emporte quelques semaines avant le drame quand il apprend que Danielle passe une après-midi avec Jérémy Henry, un ami du lycée. Michaela raconte aussi qu'il casse le téléphone de Danielle sous le coup de la colère, mais on ne connaît pas les détails de cet incident. Danielle protège Skylar, elle refuse de parler en mal de lui, même à ses amis. Michaela pense que son ami ne lui dit pas tout. Et d'ailleurs, en parlant de cachotterie et de pensées personnelles, Danielle tient un journal intime. Les enquêteurs l'apprennent de ses proches, mais impossible de mettre la main dessus. Il n'est pas retrouvé dans l'appartement du couple. Où se trouve-t-il ? Les enquêteurs appellent Danette qui visiblement aurait récupéré le journal intime après le drame. C'est elle qui est en sa possession. Vu qu'elle a payé la caution d'1 million de dollars pour son fils, je pense qu'on peut avancer la théorie que cacher le journal intime de Danielle, c'est aussi pour protéger son fils. Mais pas de problème, dit Danette, la maman dévouée à son fils qui pourrait se révéler être un tueur. Elle peut déposer le journal intime aux enquêteurs s'ils le veulent. Mais elle préfère les prévenir. Quelques pages manquent à l'appel. Elles ont été arrachées. Allez savoir par qui et pourquoi. Les enquêteurs, malheureusement, ils n'apprennent rien d'intéressant pour l'affaire dans ce journal à trous. Un autre élément étrange est mis en lumière. Une facture d'achat d'un bouquet de roses rouges acheté la veille sera retrouvée dans l'appartement du couple. Skylar explique que c'est Daniel qui a fait cet achat pour la femme d'un de ses collègues. Mais les enquêteurs se demandent s'il ne s'agit pas d'un cadeau pour un amant ou une amante. Skylar, en tombant sur la facture, aurait peut-être vu rouge et dans un accès de jalousie, il aurait tué Daniel. En tout cas, c'est une théorie. Le procès de Skylar Nemetz, 21 ans, s'ouvre en février 2016, soit un an et demi après la mort de sa femme, Daniel. Daniel avait 19 ans au moment de sa mort. Skylar est accusée d'homicide volontaire. Pendant toute la procédure, Danette va mettre sa vie entre parenthèses pour soutenir son fils. Elle quitte la Californie où elle réside. Elle laisse son fils cadet Aaron chez des amis dans l'Utah pour aller vivre à Tacoma avec Skylar. Ils habitent chez des amis et ils vont même partager la même chambre à coucher. Elle dépense toutes ses économies, elle va même emprunter de l'argent pour assembler une équipe de défense digne de ce nom. Le procureur, Gregory Greer, ouvre son plaidoyer en disant que cette affaire, c'est une affaire de contrôle. Il lit ensuite des SMS de Skylar à Daniel pour montrer le climat au sein du couple. « Daniel, c'est quoi ce bordel? Pourquoi t'as pris Amazon Prime? Tu pourrais me demander avant de faire de la merde avec mon argent. T'es vraiment une imbécile. » Dans un SMS, Skylar l'accuse de le tromper avec Jeremy Henry, son ami du lycée, et Daniel répond « Soit tu as des complexes sur lesquels tu dois travailler, soit tu ne me fais pas confiance, mais il faut que ça cesse. » Et le plaidoyer du procureur continue. Les actions de Skylar en disent plus que ses paroles. Le rangement de l'arme dans le placard, la dissimulation des munitions sous le lit, la vidange de l'alcool dans les toilettes et le jeter des bouteilles vides par-dessus le balcon, tout ça, selon l'accusation, c'est de la falsification de preuves. Skylar cherche à se débarrasser de tout élément pouvant donner un motif à ce geste. D'ailleurs, les bouteilles, je te disais qu'on allait revenir dessus. Le procureur les décrit comme l'élément de preuve le plus significatif de l'affaire, et voici pourquoi. À la base, Skylar demande à son ami et compagnon d'armes Anthony Fass d'aller chercher les bouteilles parce qu'il a une autorisation pour quitter le camp d'entraînement un jour plus tôt que lui. Mais Anthony a autre chose à faire, donc il ne veut pas aller faire les emplettes de Skylar. Skylar envoie donc le SMS à Daniel, mais elle non plus n'a pas 21 ans. Elle panique un peu, elle a peur de se faire engueuler s'il n'y a pas les bouteilles à la maison au retour de Skylar comme exigé, et elle demande donc à deux de ses amis de l'accompagner, et parmi ses amis, Jeremy. Skylar, en rentrant de sa mission, va remercier son ami Anthony, qui va lui dire « Mec, j'ai rien fait, mais tu sais très bien qui c'est qui allait chercher ta tise avec ta meuf. » Apparemment, selon ce que raconte Anthony, Skylar entre dans une colère noire. Il est en colère parce que Daniel a menti par omission. Elle a vu Jeremy alors qu'il ne veut pas qu'il se voit. Skylar est en colère parce qu'il est jaloux et qu'il ne sait pas gérer ses émotions. Il fait semblant d'être de bonne humeur pendant l'appel FaceTime entre Daniel et Michaela, mais le procureur dit qu'il cache sa colère. Il est à l'affût comme un soldat bien entraîné. Il attend qu'elle raccroche, une dispute commence et il lui tire une balle à l'arrière de la tête. Et la preuve ultime, selon l'accusation, l'autopsie de Daniel. Elle indique qu'elle est abattue à très courte distance, presque à bout portant. Et le procureur offre un grand moment lors du procès. Pendant qu'il questionne Skylar, il met l'arme du crime dans les mains du jeune homme et il veut graver cette image de Skylar le tueur dans l'esprit des membres du jury. De son côté, la défense plaide la négligence. Le coup de feu n'est pas intentionnel et il n'y a pas de preuve qui indique un quelconque mobile. C'est à croire qu'ils n'ont pas entendu la partie du procureur, vu les SMS et entendu les témoignages des amis qui parlent d'une jalousie excessive et d'un contrôle obsessionnel. Mais bref, la défense continue. Skylar a pris la décision stupide et imprudente de pointer une arme qu'il croit déchargée sans jamais imaginer qu'une balle peut en sortir et mettre fin à la vie de Daniel. Michael Stewart, avocat de la défense depuis plus de 20 ans, veut présenter Skylar comme un mari aimant. Il lit à son tour des SMS bien choisis « Je vais me coucher chérie, je t'aime » ou encore « Salut bébé, comment s'est passée ta journée ?» Skylar et Danette prennent aussi la parole pour raconter à quel point le couple s'aime, pour parler de l'avenir qu'ils imaginent ensemble, du bonheur de vivre sous le même toit, d'être mariés à son âme sœur. Et Skylar pleure « Je n'ai jamais voulu blesser ma femme, jamais ». Danette, sa mère, s'insurge. Selon elle, il s'agit d'un procès à charge. Ils l'ont reconnue coupable dans les heures qui ont suivi son arrestation sans même enquêter, dira-t-elle. L'avocat Michael Stewart sait que le véritable défi va être de convaincre les 12 jurés qu'un soldat qualifié avec des années d'entraînement au maniement des armes peut commettre une telle erreur, et surtout une erreur fatale. Il qualifie Skylar d'enfant fatigué par son camp d'entraînement et il conclut « Il n'y a jamais eu de mobile, c'est un accident. Il demande au jury de déclarer son client coupable d'homicide involontaire et non de meurtre au premier degré, donc avec préméditation. Le jury aura besoin de 7 longs jours de délibération. Le but n'est pas de décider, comme c'est le cas habituellement, si Skylar a tiré sur sa femme, il a bien tiré sur Daniel, il le dit. Le but pour les membres du jury, c'est de décider ce qu'il se passe dans la tête de Skylar au moment où il tire le coup de feu. Même s'ils sont perplexes face au comportement de Skylar après le tir, pas d'appel au 911, il ne va pas aider Daniel, il se débarrasse de l'alcool et cache le magazine rempli de munitions, les membres du jury vont recréer la scène avec la même arme, dans le but de voir s'il est possible qu'un coup de feu parte accidentellement. Et le jury parvient à un verdict. Skylar est reconnu coupable d'homicide involontaire. Recréer la scène avec un expert en balistique leur permet d'en venir à la conclusion qu'il est possible qu'un coup de feu parte accidentellement. Alors personnellement, je trouve que ça n'explique pas comment la balle a pu arriver pile en plein milieu de la tête de Daniel, mais malheureusement pour moi, je n'étais pas membre du jury. Et je suis également choquée du fait qu'on n'ait absolument pas poursuivi Danette, la mère de Skylar, pour obstruction à la justice. Alors on peut sûrement pas prouver que c'est elle qui a arraché les pages probablement incriminantes envers son fils, mais rien que le fait qu'elle soit en sa possession aurait pu justifier des poursuites et surtout peser dans la balance pour faire justice à Daniel. Skylar dira lui-même que sa mère en a fait trop pour lui. Elle a tout vendu, même ses bijoux. Elle a beaucoup sacrifié pour l'aider à se sortir de cette affaire. 3 semaines plus tard, Skylar est de nouveau convoqué pour son audience de sentence. Devant sa famille et ses amis, mais aussi la famille et les amis de Daniel, Skylar prend la parole. « Mes actes, et mes actes à moi seul, nous ont amenés ici, et j'en assume l'entière responsabilité. J'ai été imprudent et négligent, et pour ça, je paierai. Je suis désolée pour tout le monde ici, et surtout, je suis désolée pour Daniel. Je suis désolée qu'elle ait été arrachée à ce monde, et je suis désolée pour ses amis et sa famille. » Le 3 mars 2026, le juge Jack Nevin, ancien juge de l'armée à la retraite, condamne Skylar à 13 ans et demi de prison. Vous êtes un expert et le niveau d'expertise dont vous disposez montre le degré d'imprudence dont vous avez fait preuve. Skylar pourrait être libéré au plus tôt en 2028, il aura 34 ans. Pour conclure, disons que cette affaire est complexe parce qu'on ne cherche pas qui a tué mais pourquoi, on sait qui a tué. Est-ce qu'il y avait une intention meurtrière ou est-ce que c'était réellement un accident? Le jury a décidé que c'était un accident et vu les circonstances, je ne suis absolument pas d'accord. Mais ce n'est que mon avis et je t'invite à laisser le tien en commentaire. Pour moi, une question reste en suspens. Un soldat bien entraîné, un expert en armes à feu, peut-il tuer accidentellement la personne qu'il aime le plus? Bourré et tiré par accident, je peux le concevoir. Bourré et tiré en plein milieu de la tête, j'ai du mal à y croire. Et j'ai aussi l'impression qu'on a complètement occulté le rapport d'autopsie. Rapport qui disait que la balle avait été tirée presque à bout portant. La seule chose que je veux bien concéder, c'est la réponse que donne Skylar quand on lui demande pourquoi il a agi comme il l'a fait après le coup de feu. Pas d'appel au 911, l'alcool déversé dans les toilettes, les bouteilles jetées par le balcon, etc. Il répond qu'il n'avait pas les idées en place, il était en état de choc, je rappelle qu'il avait bu, et ça à la rigueur, je peux y croire. Skylar est condamné pour son imprudence et sa négligence, presque sans prendre en compte tous les problèmes du couple, sa jalousie, sa possessivité, le contrôle qu'il exerçait sur Daniel. À un an d'intervalle, un autre soldat du même bataillon d'infanterie de la base Lewis McCord, qui s'appelle Jeremiah Hill, a également des démêlés avec la justice pour meurtre. Mais son histoire va se finir très différemment. Jeremiah est poursuivi devant un tribunal militaire pour avoir poignardé un autre soldat en plein cœur dans une rue de Lakewood, la même ville où résidaient Skylar et Daniel. Le soldat, issu d'une famille pauvre de Chicago, a un avocat de la défense fourni par l'armée. Il plaide la légitime défense et il est condamné à 45 ans de prison. La différence entre ces deux condamnations est choquante. Et puis pourquoi Jeremiah est poursuivi par le tribunal militaire et pas le tribunal du comté de Pierce, comme ça a été le cas pour Skylar? Visiblement, c'est l'armée et le comté qui discutent ensemble de façon informelle pour décider quelle autorité poursuit un soldat quand un crime est commis en dehors de la base. En gros, c'est totalement arbitraire. Est-ce que c'est pas à la tête du client? Et tu as sûrement remarqué que Jeremiah, eh ben, il n'est pas blanc. Donc on est obligé de se poser la question suivante. Quelle aurait été la peine de Skylar s'il avait été jugé par le tribunal militaire? Et surtout, est-ce qu'il aurait reçu la même condamnation, le même verdict, si comme Jeremiah, il avait été noir? On termine avec une dernière question. Je sais, il y a beaucoup de questions sur cette affaire. Enfin, en tout cas, perso, j'en ai pas mal. Si quelqu'un dans ton entourage est peut-être responsable d'un meurtre intentionnel, est-ce que tu laisses l'enquête se faire sans intervenir ou à la rigueur en payant une caution $1 million? Ok, pourquoi pas. Mais est-ce que tu laisses justice suivre son cours ou est-ce que tu la joues à la Danette et tu arraches les pages du journal intime de la victime. Pages qui, je l'imagine, ne contenaient que des éléments incriminants envers Skylar. Qui d'autre aurait pu arracher ces pages? Et si en plus Daniel ne racontait rien ou pas grand-chose à ses amis, ni même à sa meilleure amie Mikaela, il est facile de concevoir qu'elle mettait ça sur papier au moins. Alors tu peux pas tout garder pour toi à l'intérieur, t'exploses. Surtout si, comme Daniel, tu subis injustice sur injustice, un mari qui boit, qui n'est pas content de tous les efforts que tu fais pour lui, tous les sacrifices que tu fais pour lui, et qui en plus t'accuse de tromperie tous les 4 matins. Laisse ton commentaire en commentaire. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.